journal donc, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des petits malades trop nombreux dans une ville de Loire-Atlantique. Deux fois plus de cancers pédiatriques à Sainte-Pazanne que dans le reste de la France. Réunion publique hier soir entre inquiétude et dignité. Les parents attendent des réponses. Qui est content de sa prestation au grand débat des Européennes hier soir? On verra ça en coulisses avec Maxence Lambrecq. Certains tout sourire, d'autres beaucoup moins, vous allez le voir. Que se passe-t-il en Libye? Le général Haftar appelle ses troupes à marcher sur Tripoli. Fin de campagne sous tension en Israël à 4 jours des législatives. L'éclairage de votre invité Nicolas.
Oui, le correspondant du quotidien israélien Haaretz à Paris. Il est notre invité. Il publie son premier roman, un roman d'espionnage chez Liana Levy. Dov Alphon dans le grand entretien de la matinale. Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000. Passez autrement par les réseaux sociaux et l'application France Inter.
À la une également, des médicaments vendus en grande surface. Le sujet est remis sur la table. Nous irons à Lourdes également dans ce journal. Et puis avec les lions de la grotte Chauvet.
France Inter.
Pourquoi tant de nos enfants sont-ils malades? C'est la question qui hante les habitants de Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique. Dans cette ville de 6000 personnes, 6 enfants ont développé un cancer depuis 2015, 6 autres dans les communes voisines. Hier soir, la salle communale dédiée à la réunion publique à Sainte-Pazanne était archi-comble. Béatrice Duguay était sur place pour France Inter.
L'atmosphère est empreinte d'une gravité intimidante pour le maire de la commune, Bernard Morillot.
J'ai rarement vu autant de gens, c'est un silence impressionnant.
Plus de 600 personnes, certaines debout, d'autres écoutent la retransmission dans une salle attenante. Et des questions, l'assistance va en poser pendant près de 3 heures, avec dignité, comme cette maman des Moutiers-en-Ré, dont la fille de 13 ans vient de guérir d'un cancer.
On a quitté la ville de Nantes pour la campagne, et du jour au lendemain, notre enfant est atteint d'un cancer. Qu'est-ce qui peut faire que nos enfants tombent malades? Est-ce que ma deuxième va pas tomber malade aussi?
L'inquiétude tenaille ses parents, dont certains se demandent s'ils doivent déménager ou non. Il faut surtout former les médecins du secteur, fulmine cette maman qui a perdu son enfant.
Parce qu'en tant que parent, on va pendant un mois voir le médecin et le médecin ne trouve que dalle. Il n'y a pas une prise de sang de fête et l'enfant, au bout d'un mois, il crève.
L'agence régionale de santé promet une réunion des généralistes du secteur, alors que les habitants émettent les hypothèses, pesticides, ondes téléphoniques, terre polluée, benzène émis par la circulation, dégagement de radon. Nous lançons la recherche, répond Bernard Gagnère, épidémiologiste de Santé publique France.
Il n'y a pas, pour le moment, de facteur de risque fort qui ait émergé des premières investigations et qui nous permettent de dire ben c'est bon, c'est ça, on a trouvé la cause.
Reste à déterminer le périmètre de l'étude pour chercher une cause commune locale à cet excès de cancer. Premières indications espérées d'ici 6 mois.
La santé menacée par l'environnement, credo écolo et credo de la gauche, éclaté au grand débat des Européennes hier soir sur France 2 et sur France Inter. Débat souvent fratricide au sein de cette aile gauche, comme chez les souverainistes. Ils étaient 12 en tout, en randonnion et déclinant leur partition. Les moments forts de ce débat sont à retrouver sur franceinter.fr, mais ce que nous allons entendre maintenant, ce sont les coulisses de l'après-émission. Maxence Lambrecq dans les loges avec des candidats contents d'eux et d'autres moins.
Visage fermé, fatigué, Nathalie Loiseau quitte immédiatement le studio. Pas le cœur à partager un verre, elle reconnaît que son voisin l'a trop souvent interrompu. En effet, Jordan Bardella savoure une coupe à la main au troisième étage, débriefing tout sourire, à côté de son ancien ami Florian Philippot, qui s'est offert une belle tribune.
C'est vrai que beaucoup ne savaient pas que peut-être que les Patriotes existaient, puisqu'on est le plus jeune mouvement politique de France, donc pour nous c'est tout gagnant, et peut-être pas non plus qu'on était simplement candidat.
Dans un couloir, surprise, chaleureuse poignée de main entre Benoît Hamon et François-Xavier Bellamy, le candidat LR assume de n'avoir interrompu personne. « Je n'aime pas le jeu politicien ». L'ancien socialiste, lui, ne sait pas sur quel pied danser.
Ça, vraiment, j'en ai fait des débats où je pensais que j'avais marqué des points, j'en ai pas marqué. D'autres où je pensais que j'en ai pas marqué, j'en ai marqué. Impossible à dire.
L'écolo Yannick Jadot, lui, n'a pas l'air mécontent. Juste avant l'émission, son pot de miel avait disparu sur un plateau repas. Enfin, deux scènes révélatrices. Nicolas Dupont-Aignan, qui, en direct, face à la question « Irez-vous au bout de votre mandat ?», souffle à son voisin « On n'a pas le choix, faut répondre oui ». Et puis Raphaël Glucksmann, qui une fois les projecteurs éteints, confie à son équipe sur le plateau « Je ne suis pas fait pour ça.
Maxence Lambrecq, Nicolas Sarkozy de retour au Phuket's à la table du conseil d'administration du groupe Barrière, propriétaire du restaurant où il avait fêté son élection, mais surtout numéro 1 des casinos en France, suite de la reconversion de l'ancien président qui est déjà administrateur du groupe hôtelier Accor. Un appel à la grève générale lancé à Saint-Martin à partir du 11 avril. Les syndicats de l'île caribéenne veulent moins de procédures pour la reconstruction après le passage du cyclone Irma qui a endommagé 95% des bâtiments il y a un an et demi. Ils réclament aussi la mise en sécurité des écoles ou le maintien des services publics.
Il est 8h05, filez au supermarché plutôt que chez le pharmacien.
Oui, pour acheter un médicament contre le mal de tête par exemple, voilà qui est impossible en France. Mais pour combien de temps encore? L'autorité de la concurrence préconise de nouveau la fin du monopole des pharmaciens. Et cette fois, cela colle bien avec les ambitions du gouvernement en matière de pouvoir d'achat, Marine Le Génie.
Des traitements contre les rhumes, les maux de gorge, les maux de ventre, Doliprane et Feralgan ou encore le Spasfon, tous les autotests sont également concernés. Dépistage du VIH, du cholestérol, test de glycémie. Actuellement, seuls les pharmaciens ont le droit de les vendre et ils défendent leur monopole en invoquant la sécurité des patients et le risque de surdosage. Le gendarme de la concurrence répond que la vente se ferait sous la responsabilité d'un pharmacien diplômé dans un espace dédié avec une caisse séparée et permettrait surtout de faire baisser les prix de 15% environ, comme c'est le cas en Allemagne par exemple. Du côté du ministère de la Santé, on préfère rester prudent pour l'instant. Une première réunion de travail entre Agnès Buzyn et les professionnels concernés doit se tenir à la mi-avril.
Carlos Ghosn en garde à vue à Tokyo potentiellement jusqu'au 14 avril, vient de décider le tribunal après sa deuxième arrestation hier. Cette fois, l'ancien patron doit répondre de soupçons de détournement de fonds chez Nissan. Direction la Libye, maintenant pays divisé en deux depuis la chute de Kadhafi en 2011 et qui semble s'embraser de nouveau. Le général Haftar, maître de l'Est libyen, a pris position à moins de 30 km de Tripoli. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour Florence.
Ce matin, il appelle ses troupes à marcher sur la capitale.
Oui, des dizaines de véhicules blindés sont actuellement en route vers Tripoli. Les hommes en effet, du maréchal Haftar. Khalifa Haftar est à la tête de l'armée nationale libyenne qui contrôle l'est du pays et de nombreuses zones du sud. Hier, ses troupes se sont emparées d'un barrage à 27 km de l'entrée de Tripoli. Haftar a lancé un appel sur les réseaux sociaux.
Tripoli, c'est à toi que je m'adresse, mais aussi à tous les valeureux combattants. Il est l'heure de lancer l'assaut. Avancez comme vous avez l'habitude de le faire, d'un pas sûr et par la grâce de Dieu. Rendez-vous à Tripoli en paix, vers tous ceux qui veulent la paix.
Peu de combats pour le moment, mais en face, l'autre camp fourbit ses armes, c'est celui de Fayez el-Sarraj, qui dirige à Tripoli le gouvernement d'union nationale, mis en place par l'ONU en 2015. Il est soutenu par de nombreux groupes armés et milices très hostiles à Haftar. Sarraj demande à ses troupes de se tenir prêtes. Et la communauté internationale s'inquiète, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est justement en Libye depuis avant-hier. Il doit rencontrer aujourd'hui Haftar. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les Émirats arabes unis qui soutiennent Haftar rappellent qu'il n'y aura pas de solution militaire à la crise. Il est possible que le maréchal Haftar veuille surtout montrer ses muscles avant une conférence nationale prévue dans 10 jours, mais le risque d'un embrasement est très élevé.
Franck Madvon, merci. Cette situation libyenne donnera lieu à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. On va maintenant se déplacer vers l'Est en Tunisie. Le pays est en train de faire l'inventaire des années Bourguiba et Ben Ali passés au crible pendant 5 ans dans le cadre de ce qu'on appelle là-bas la justice transitionnelle. Un rapport a été publié sur les violations des droits de l'homme des années 50 à 2013. On y trouve, Maureen Mercier, le nom de l'actuel président Béji Caïd Essebsi, accusé de torture.
Il faut éplucher un rapport de plusieurs milliers de pages pour voir tout à coup apparaître le nom du président actuel et comprendre pourquoi il s'est appliqué durant les 5 ans de travail de l'IVD à tout faire pour la paralyser. Au moment des faits qui lui sont reprochés, Béji Caïd Essebsi est directeur de la Sûreté nationale, puis ministre de l'Intérieur sous Bourguiba. Chihem Ben Sedrine, la présidente de l'instance.
Nous avons reçu des plaintes de victimes et ces victimes ont témoigné qu'il a assisté à leur torture.
Des victimes qui avaient tenté de renverser renversé le régime de Bourguiba, enfermé ensuite durant des années.
Ils étaient enchaînés dans un bagne avec une chaîne de 50 cm. Ils étaient battus tout le temps.
Le président risque-t-il d'être jugé puis condamné? Si Béji Caïd-Essebsi reconnaît les faits et s'excuse publiquement, il pourrait s'en tirer. C'est le principe même de la justice transitionnelle.
La justice transitionnelle, elle est beaucoup plus ouverte à la réconciliation, mais ça dépend aussi de son degré de coopération.
Jusqu'ici, le président n'a jamais voulu s'étendre sur son passé. Si Béji Caïd-Essebsi souhaite se présenter, et c'est très probable, à sa propre succession lors de la présidentielle en novembre, il va peut-être bien devoir se raviser. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
En Algérie, on verra à quoi ressemble ce premier vendredi après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Les appels à manifester contre le système et contre l'armée restent nombreux.
Et à 8h10, Florence, Bezos contre Bezos.
Aux États-Unis, c'est un divorce qui se termine bien pour tout le monde, celui de Jeff, patron d'Amazon, et de son épouse Mackenzie. L'annonce de leur séparation avait fait trembler la bourse. Mais bonne nouvelle, monsieur conservera les trois quarts des actions du couple et tous ses droits de vote chez Amazon. Et vous allez voir, madame n'est pas à plaindre non plus. Grégory Phillips est à Washington.
La future ex-femme de Jeff Bezos, Mackenzie, l'annonce sur Twitter. Elle laisse à celui qu'elle a épousé il y a 25 ans l'intégralité de ses parts dans le Washington Post et dans la société spatiale Blue Origin. Et surtout 75% des actions Amazon que possédait le couple. Les Bezos étaient encore propriétaires d'environ 16% du capital de l'entreprise, leur fortune estimée à environ 136 milliards de dollars. Surtout, elle abandonne à Bezos tous les droits de vote liés à ses actions, ce qui signifie que le fondateur d'Amazon conserve les rênes de la société. Divorce à l'amiable donc, ce qui n'était pas évident car ce sont des révélations dans la presse à scandale sur une relation extra-conjugale de Bezos qui ont provoqué cette séparation. Mais au terme de la procédure, dans environ 3 mois, Mackenzie Tuttle restera propriétaire d'environ 4% du capital d'Amazon. Avec une fortune estimée à 36 milliards de dollars, elle va devenir la troisième femme la plus riche du monde. Et sur Twitter, lui aussi, Jeff Bezos la remercie pour son soutien et sa gentillesse. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Quand les Mormons, reconnus pour leur rigorisme, autorisent les baptêmes des enfants de couples homosexuels, annonce de l'église mormone aux États-Unis hier, nous voulons réduire la haine et le mépris si répandu de nos jours, disent les Mormons. Faut pas prendre les marchands du bon Dieu pour des canards sauvages. Ça, c'est la prière des vendeurs de Lourdes, ceux qui pullulent dans la ville avec leurs objets de piété. Ils sont en guerre contre la mairie qui possède un certain nombre de leurs magasins. Elle veut les vendre, Julie Pietri.
À Lourdes, il y a la grotte, le sanctuaire et les boutiques de souvenirs partout, à chaque coin de rue, avec des vierges en bois, des vierges en plastique, des vierges en verre que les pèlerins remplissent avec de l'eau dite miraculeuse. Un commerce qui fait bien rire Raymonde et sa sœur Jocelyne.
On est passé dans la rue et puis on a vu un magasin, mais alors un supermarché quoi. Alors on est rentré. Je lui dis à ma sœur, mais qu'est-ce que tu veux aller faire là-dedans? Elle me dit, on va voir. On n'a pas le choix de ne pas les voir, de ne pas y entrer, de ne pas être curieux quoi.
66 boutiques que la mairie possède vont être donc vendues entre 100 et 500 000 euros. Josette Bourdeux, maire de Lourdes, espère ainsi récupérer de l'argent pour la ville et attirer aussi d'autres types de commerces.
Ah, moi j'aimerais, parce que franchement il n'y a pratiquement que ça. Et c'est peut-être, ça correspond plus trop au 21e siècle.
Le président de l'intersyndicale des commerçants, Jacques Barzu, dénonce lui une vente forcée. Des Lourdais qui louent ici depuis des lustres n'auront pas assez d'argent pour acheter et devront partir.
70% d'entre eux auront du mal parce que d'abord ce sont des gens âgés, parce que d'autre part les banques ne leur prêteront pas, ils auront du mal à acheter. Bon, ces rues sont animées, les gens aiment ces boutiques, il y a une ambiance, c'est comme ça, c'est Lourdes. C'est resté quand même jusqu'alors des affaires familiales.
Les commerçants préparent un recours devant le tribunal administratif de Pau. À Lourdes, Julie Pietri, France Inter.
Et de la grotte de Lourdes à la grotte Chauvet, des vierges en plastique au lion sur la pierre. Figurez-vous que la moitié de ces félins dessinés par les hommes préhistoriques se trouvent dans cette grotte de l'Ardèche. Ils font aujourd'hui l'objet d'une exposition là-bas à Chauvet, des lions et des hommes. Sophie Bécherel l'a visité en avant-première.
Chevaux, vaches, bouquetins, parmi les 425 figures animales de la grotte Chauvet, une espèce emblématique, le lion des cavernes.
Les félins sont effectivement des animaux très peu représentés dans la préhistoire et ce sont les animaux les plus représentés
dans la grotte Chauvet.
Valérie Molès est préhistorienne et responsable de la médiation scientifique à Chauvet 2.
Ce sont des animaux qui n'ont pas forcément été chassés. C'est des animaux qui sont durs, sont des carnivores, donc alimentairement, ils n'ont pas vraiment une grande valeur. Donc on a très peu de vestiges, de squelettes et d'ossements. Alors que par contre, au niveau symbolique, c'est un animal qui devait avoir beaucoup d'importance et c'est tout le sujet de l'exposition.
Une exposition où l'archéologie côtoie l'histoire de l'art, l'ethnographie et l'histoire naturelle. La commissaire de l'exposition, Maria Gonzalez, a choisi le lien homme-nature comme fil conducteur. Et chose étonnante, dit-elle, quelle que soit la civilisation ou les peuples étudiés, les félins ont une place à part dans le système de pensée et de croyance.
C'est pas pareil en Égypte que, par exemple, on va les trouver en Grèce et Rome ou encore en Amérique du Sud. Mais il y a des éléments communs à toutes ces cultures et les félins tiennent souvent une place proche des dieux. Donc c'est une image sacralisée. Et aussi, partout, c'est un emblème des pouvoirs.
Les 170 pièces exposées sont exceptionnelles. À noter un bébé lion des cavernes de 46 000 ans, extrait du sol gelé de Yakoutie, montré pour la première fois en France.
Des lions et des hommes, 400 ans de fascination. Vous en parlerez à votre chat, Nicolas. L'exposition a lieu du 6 avril au 22 septembre. Les filles du foot, à 2 mois de la Coupe du Monde en France, les Bleus ont battu le Japon 3-1. Il reste un match avant le début de cette Coupe du Monde. Il aura lieu lundi à Strasbourg, face au Danemark. Enfin, ce type est dingue, qui vogue depuis 100 jours dans un tonneau au milieu de l'Atlantique. Jean-Jacques Savin a 72 ans, il a quitté les Canaries le 26 décembre. Il dérive depuis, il espère rallier l'autre côté de l'océan grâce au seul courant. Il a déjà fait 4000 km. Il en reste 1 000 000 avant d'arriver aux Antilles, si tout va bien. Et pour ses 100 jours de périple, il a ouvert son téléphone satellite pour un petit bilan avec Sébastien Sabiron.
Ça s'est très très bien passé, à part de la déception sur cette météo qui a été très capricieuse. J'ai eu deux moments difficiles, le navire qui me venait directement dessus. Je l'ai appelé jusqu'au dernier moment, donc j'étais obligé de prendre le fumigène. Il m'a évité de passer à 30 mètres. Je suis très très bien, en bonne condition physique, je passe des moments merveilleux. Ça sera avec regret que j'arriverai. Et au-delà de mes espérances, c'est une traversée qui a été fabuleuse.
Voilà, Jean-Jacques Savin alias Diogène, qui n'a pas envie d'arriver, donc, mais qui devrait pourtant joindre les côtes des petites Antilles à la fin du mois.
Merci Florence Paracuello, c'est bonne fin de route à lui.